Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là ce soir. Nous accueillons Jim Fergus pour son dernier ouvrage, Les Amazones, qui clôt la trilogie commencée avec Les Mille Femmes Blanches et suivie par la suite par La Vengeance des Mères. Merci aussi aux éditions Cherche Midi. Bonsoir Jim Fergus.
Bonsoir, je suis très contente d'être avec vous.
Et merci pour votre français impeccable.
Ce n'est pas du tout impeccable. Mais je me débrouille un peu.
Pour un dialogue entre amis, c'est très, très bien.
C'est gentil, merci.
Comme nous arrivons à la fin d'une trilogie, je vais commencer par une question très, très globale. Déjà, comment la passion et l'intérêt pour les Indiens est arrivé dans votre vie?
Alors... Quand j'étais petite, mon père qui a vendu les automobiles, il avait une agence de Ford, en fait, Fergus Ford, il s'appelait. Et on a pris une espèce de break et on a fait des voyages, des trajets de Chicago dans les grandes plaines. On a passé par Nebraska, les Dakotas, le Wyoming, Montana, Colorado, un peu partout. On a choisi une route différente chaque fois et... Moi, c'était les années 50, et même avant les autoroutes. Deux fois, c'est impossible de passer à travers ce paysage sans passer sur les réserves. Mais les réserves ne sont pas des destinations touristiques. C'est pas les blancs, ils passent pas les vacances là. Ils restent dans la voiture. Ils veulent pas même pas arrêter là. Ils sont des troisièmes, comme un peu comme les mondes troisièmes dans notre grand pays de premier monde. Et moi, j'étais choqué parce que j'ai vu, comme enfant, j'ai vu tous les films sur les Indiens, les John Ford films et John Wayne. Et moi, je pensais qu'ils, comme jeune homme, jeune garçon, qu'ils sont encore en train de vivre sauvage, libre et sauvage, et de chasser les bisons et de vivre dans les tipis. J'étais choqué quand j'ai vu la réalité de vie actuelle. Et donc, ça est resté dans ma tête pendant des années des années. J'ai adoré le paysage, j'adore les grandes plaines, j'adore l'Ouest. J'ai grandi juste dans une espèce de banlieue de Chicago. Quand j'ai vu les grands espaces, j'étais vraiment enchanté par ce paysage. J'ai déjà su qu'un jour je vais habiter ici, dans l'Ouest. Je suis allé à l'université dans le Colorado. Et éventuellement, je suis devenu freelancer, journaliste freelancer. J'ai fait beaucoup d'articles sur la nature, sur la chasse un peu, la chasse des gibiers, gibier à plumes en fait. Et j'avais des chiens de la chasse et j'ai fait la pêche à mouches. Donc j'ai voyagé beaucoup autour de l'Ouest et... Encore, j'ai vu les réserves et rien n'a changé. Et maintenant, même maintenant, c'est pas beaucoup changé la situation des tribus là dans les grandes plaines.
On l'a vu aussi ces dernières années avec Standing Rock.
Ah oui.
Je vous demanderai un peu plus tard de nous raconter votre point de vue sur ce qui s'y passe. Et si vous pensez que les Indiens peuvent gagner ou non. On va revenir pour l'instant au début de la trilogie. Les Mille Femmes Blanches arrivent comment? Et comment se fait-il que vous preniez la voix d'une femme pour raconter cette histoire?
Alors, je vais répondre aux deuxième questions d'abord. Si on a un roman qui, avec le titre « Mille femmes blanches », il faut avoir les voix des femmes, un peu. Et donc, moi, je ne pensais pas que j'avais le droit d'écrire du point de vue d'un Indien, en fait, parce que je ne suis pas Indien. Et ils ont une façon de penser une culture complètement différente. Et moi, je pensais qu'avec les femmes que les hommes, que les Indiens. J'ai tombé ce fait. J'étais en train de faire les recherches pour une biographie sur le grand chef Little Wolf. J'ai tombé sur ce petit fait historique que les Cheyennes sont allés à une conférence de paix avec le gouvernement, avec l'armée américaine, et ils ont demandé l'échange de 1000 femmes blanches pour 1000 chevaux, parce que ils ont déjà vu que la fin de la façon de vivre, le moyen de vivre était en danger, et donc c'était un moyen pour eux de s'assimiler, ils pensaient, parce que ils pensaient, c'était comme beaucoup des tribus, beaucoup des races natives, c'était une culture, une société matrilinéaire, c'est-à-dire bien sûr que tous les enfants nés appartiennent automatiquement à la tribu des femmes, des mères. Pas le père, mais les mères. Et par exemple, quand une femme Cheyenne s'est mariée avec un guerrier Arapaho ou Sioux qui était assez, c'était pas rare du tout, et parce qu'ils étaient des amis, tous les enfants étaient considérés d'être les Cheyennes. Donc, ils pensaient que tous ces enfants nés entre ces mariages avec les blancs, les femmes blanches, tous ces enfants nés vont être considérés d'être les blanches ou les blancs. Pas les métis, pas les Indiens, mais les blancs avec tous les privilèges que vos enfants. Et donc, on peut imaginer comment c'était reçu par le gouvernement américain à l'époque, même maintenant, l'idée de pour les femmes blanches d'avoir les enfants avec les sauvages, c'était pas bien reçu. La conférence de paix était tombée en ruine, et les chefs, le gouvernement était en colère contre l'armée, était en colère contre les Indiens. Les chefs, les Cheyennes, qui ne comprenaient pas du tout pourquoi, parce que c'était, pour eux, c'était normal. Ils voulaient s'assimiler, c'était simplement ça. Mais bon, j'ai trouvé cette idée vraiment fascinante. J'ai continué un peu mes recherches sur le bio sur Little Wolf, parce que Little Wolf était un grand, grand chef, mais beaucoup moins connu que par exemple Crazy Horse ou Sitting Bull ou Chief Joseph, beaucoup moins connu, mais il était un grand, grand guerrier, un grand chef. Parce que je ne pouvais pas quitter cette idée, j'ai abandonné la biographie et j'ai commencé à écrire le roman. Et c'est comme ça.
J'étais curieuse, vous êtes très très sensible à la question d'appropriation culturelle, j'ai compris. Donc du coup, c'est une femme qui parle et une femme américaine au début. Est-ce que vous étiez conscient en commençant que les problématiques rencontrées par les Indiens finalement allaient être assez similaires aux problématiques rencontrées par des femmes à l'époque, voire encore aujourd'hui? Parce que les femmes qui partent finalement, ce sont soit des femmes qui ont été mises à l'asile pour X raisons, soit des femmes qui avaient été emprisonnées, comme Molly à Sing Sing plus tard. Et leurs deux souffrances se croisent, en fait. Ils ont plus en commun ces femmes blanches et ces Indiens qu'on ne penserait au départ.
Oui, parce qu'il était les femmes qui viennent des marges de notre société. Donc, c'est vrai qu'ils étaient maltraités par la société américaine, et donc avec les Indiens. Bien sûr, c'était pas facile pour elles de s'assimiler avec cette culture qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec... C'était choquant en même temps. Et cette question de l'appropriation, c'est le même mot en anglais, culturelle, c'est un grand truc maintenant, et un grand issue. Mais à l'époque, vous savez, moi j'ai commencé les recherches sur le Millefeuille Blanche il y a 25 ans. Le roman a sauté aux États-Unis en 98. Donc, c'était pas une grande chose à l'époque. C'est vrai que dans les Amazones, et peut-être je suis un peu en avance, mais j'ai un personnage contemporain qui est une de mes narratrices, qui est une femme Cheyenne, en fait. Elle parle comme narratrice, évidemment, elle parle dans le premier, c'est une première personne. Mais moi, je lutte un peu contre cette idée de l'appropriation. Maintenant, je trouve que ça peut être un peu extrême. Moi, je suis romancier. Et c'est ça qu'on fait comme romancier. On imagine les vies des autres. On essaie d'entrer dans le vie et d'entrer dans le peau de nos personnages. Ici, ils sont des races différentes, les sexes différents. C'est mon boulot. Je ne sais pas si c'est correct ou non, mais qu'est-ce qu'on va dire que Flaubert ne peut pas écrire Madame Bovary ou Tolstoï ne peut pas écrire Anna Karenina parce que ses romans sont du point de vue des femmes, en fait. Si on peut écrire seulement ce qu'on... mon race et ma race et mon sexe et ce que je connais comme homme, mais on va perdre beaucoup de littérature.
Sûrement. Mais en fait, je me référais au fait que vous aviez dit, je crois, que vous ne vouliez pas parler à la place d'un Cheyenne et que donc, du coup... il valait mieux avoir la voix d'une femme américaine.
Oui, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, je pensais pas que j'avais le droit d'écrire du point de vue d'un Indien, d'une Cheyenne. Mais après des années, le passage, plus de temps, j'ai passé de plus en plus de temps sur la réserve un peu et j'ai décidé de cette fois que j'ai le droit, en fait. C'est comme ça.
Mais surtout que vous le faites très bien. J'étais aussi très curieuse de savoir comment vous avez travaillé les portraits de ces femmes américaines, justement. Est-ce que vous avez lu des biographies de femmes de colons, des journaux intimes, parce qu'elles ont une profondeur et on a l'impression de les voir. C'est très, très cinématographique. Et autant, vous dites que vous avez passé du temps dans les réserves pour apprendre auprès des Indiens, mais pour ces femmes d'un autre siècle, comment vous avez travaillé ces personnages ?
Alors, j'ai passé 20 ans comme journaliste d'abord, avant d'écrire mon premier roman, en fait, Mille Femmes Blanches. Et donc, j'avais l'habitude de faire les recherches. Et j'adore les recherches. Et donc, j'ai fait beaucoup. Quand j'ai décidé de faire un roman sur cette idée, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'époque, la culture à Cheyenne surtout, mais l'époque et j'ai trouvé beaucoup d'infos au sujet des femmes qui étaient en prison, qui étaient dans les exils à cette période, cette époque. Dans l'État de Illinois, en fait, et Kansas, les autres États, un mari, il avait le droit de mettre sa femme dans un asile sans avoir même un docteur. Par exemple, s'il tombe amoureux à une autre femme et il veut quitter sa femme, il la met dans l'asile pendant 30 ans, hein, elle peut rester là. Et j'ai trouvé des essais un peu écrits par ces femmes qui étaient mises dans les exils. Une femme, par exemple, qui avait une dispute avec son prêtre. Et son mari, qui était très religieux, elle n'avait pas le droit même de dire qu'elle croit pas dans ses idées. Et donc, il l'a mis dans un asile, qu'elle était folle, parce qu'elle n'a pas suivi la religion. C'est étonnant, ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé tous ces personnages basés sur la recherche, parce que je savais très bien que c'était une idée si... C'était pas, je dois dire d'abord, c'était pas le gouvernement qui a envoyé les mille femmes blanches aux Indiens. C'était pas bien reçu cette idée, mais c'était moi qui ai envoyé les femmes blanches. Et il me semblait à l'époque d'être une idée tellement improbable qu'il faut l'écrire comme c'était une vraie histoire. Et c'est pour ça que je l'ai écrit comme un journaliste, en fait. C'est comme ça.
Vous dites souvent, vous vous rappelez qu'aux États-Unis, l'histoire des Indiens est extrêmement peu connue et que vous-même, à l'école, vous n'avez rien appris de ce qui s'était passé, surtout dans ces années-là. Le fait que qu'on ait tué les bisons sciemment pour que les Indiens ne puissent plus survivre, qu'ils ne puissent plus chasser. Comment une nation peut se construire sans avoir les plus élémentaires connaissances sur son passé récent?
C'est une bonne question, hein. Franchement, ça, c'est encore toujours comme ça. Moi, je reçois des mails de temps en temps et aussi les critiques sur les sites en ligne qui, après, c'est des lecteurs, les lectrices qui ont lu mes bouquins. Ils disent, mais je savais jamais qu'on a traité les Indiens comme ça, que l'armée a tué tous ces Indiens, mis dans la réserve. Mais comment c'est possible? Je ne sais pas comment c'est possible, parce que ce n'était pas appris. Je crois que c'est quelque chose qui... Je crois que les Américains, en général, ils ont honte de cette histoire. Il faut dire que c'est une espèce de génocide qu'on a commis. Comment? D'accord. Ok. Oui. Oui. Et c'est vrai. Et bon. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? C'est bon.
La construction d'une nation.
Alors, c'était pas appris dans les cours. Moi, j'ai rien lu au sujet des années. On a un peu sur le massacre de Little Bighorn, de l'armée de Custer. Mais c'était toujours la faute des Indiens. C'était les Indiens qui a commis ces atrocités. Et je dois dire que les Indiens, et c'est ça que, après des années, j'ai commencé de recevoir un peu des critiques, un peu des Amérindiens, des lecteurs, en général, ils ont bien apprécié le fait que j'ai pas fait un portrait comme un ou l'autre des stéréotypes. Oui. Des clichés, le sauvage ou le noble sauvage. Moi, je voulais écrire quelque chose vrai, même que c'est une fiction. J'essaie de créer une espèce de structure historique et j'ai mis mes femmes blanches dedans. Donc, toutes les batailles qui se passent, tous les mouvements de l'armée, tous les villages où les... Moi, j'ai fait ces recherches, j'ai voyagé beaucoup dans ces endroits et je voue tous ces endroits pour être capable de les décrire un peu c'était quoi la question?
Comment une nation peut se construire?
Ah ouais, c'est simplement que oui, on a honte, mais on peut pas vraiment avoir honte si on sait rien au sujet, hein. Les Indiens sont pas, n'ont pas bien. Oh, c'est, non, je voulais finir cette idée de. Je pouvais pas écrire un roman vrai sans éviter le fait que les Indiens, ils ont commis pas mal des atrocités aussi, hein. C'était les cultures dans les grandes plaines. C'était les cultures des guerriers. De quoi?
Ils étaient chez eux.
Non, mais on a une idée que, et ça c'est le noble sauvage. On a une idée que avant l'arrivée des mauvais blancs dans le territoire, les Indiens ont vécu en paix, toutes les tribus ensemble, et non, c'était pas du tout comme ça. Il était des guerriers. Un jeune homme Cheyenne, un jeune homme Sioux, un jeune homme Arapaho, ils ont élevé d'un très très jeune âge de devenir les guerriers. Et ils ont dit, et c'était le grand-parent, souvent le grand-père qui a élevé ces garçons. Et ils ont expliqué, mais si vous êtes, si tu es tué dans la première bataille, que tu, c'est pas grave. C'est un honneur d'être tué. C'est un honneur d'être guerrier, honneur. Et donc c'est les lecteurs, les lectrices amérindiens qui a lu a bien aimé ça, que j'ai pas essayé de dire, et même les films qui sont faits, c'est jamais la faute des aînés. Je dis c'est pas la faute, ils ont des humaines comme tout le monde, comme nous. On a commis un génocide, on a commis des atrocités aussi, mais eux, entre les tribus, c'était pas un peuple, les Indiens des plains. Je peux pas parler pour toutes les tribus. On a 376 quelque chose comme ça, tribus différentes aux États-Unis, dans toutes les régions. Et on, a des, on avait à l'époque des tribus paisibles qui n'ont pas fait la guerre. Mais en général, ceux qui n'ont pas fait la guerre, ils étaient éradiqués par les autres tribus ou ils ont été déplacés par les autres tribus. Donc il faut se rendre compte de ça aussi. Et moi, je ne fais pas les prétextes, les excuses pour le gouvernement américain non plus. Hein. C'était une espèce de génocide. OK, c'est un génocide. Bon.
Mais justement, le regard de ces femmes qui arrivent dans la tribu Cheyenne, ce que je vous disais au début, le fait que dans la société américaine, elles étaient des parias, et que donc du coup ne laisse pas derrière elle une société merveilleuse. Arrivant au milieu des Indiens, elles se rendent compte que ce ne sont pas les sauvages qu'on leur a décrits, qu'on peut s'adapter, mais en même temps, et c'est May, je crois, qui dit, toutes les religions semblent être organisées au bénéfice du sexe masculin, avec pour conséquence que les femmes sont reléguées au second plan. Elles accouchent, élèvent des enfants, s'occupent des corvées. Voilà pourquoi je me méfie des religions, celles des Indiens y compris. De ce point de vue-là, elles retrouvent quelque chose d'assez similaire avec ce qu'elles avaient vécu aux États-Unis.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Donc c'est pour répondre aussi au fait que... qu'il ne faut pas fantasmer sur une image d'Indien qui soit parfait, le bon sauvage, comme vous disiez tout à l'heure, et que la description que vous en faites, elle n'est pas manichéenne, elle n'est pas partagée entre les bons et les méchants.
Non, pas du tout. Ils sont, comme j'ai dit, toute notre histoire comme des Blancs, c'est une histoire virulente, une histoire des atrocités, une histoire d'avoir déplacé des autres. Et c'est pareil en France, en Europe, un peu partout. Oui, au même temps, on est capable, comme les Indiens, comme les humaines, capables d'une grande spiritualité. Malheureusement, c'est la nature des humaines. On est capable de ces deux extrêmes.
Si je n'ai pas posé beaucoup de questions sur les Amazones, c'est parce que j'imagine qu'il y a pas mal de personnes dans la salle qui ne l'ont pas encore lu. Et qu'il y a des surprises tellement énormes que je ne veux surtout pas, mais surtout pas dévoiler quoi que ce soit. Vous allez voir en le lisant. Mais, et M. Fergus vient de le dire aussi, il y a une nouvelle narratrice, Molly Standing Bear, qui est une des descendantes des personnages que nous avons connus dans les deux précédents livres. Et Molly Standing Bear raconte que par deux fois, sa vie a été sauvée par les livres et par la lecture. À deux reprises, enfant et adulte. Est-ce que vous aussi, vous pensez que la littérature a un rôle de médecine? Elle peut guérir.
Molly, elle a dit ça?
Ah, oui.
C'est marrant parce qu'il faut que... Moi, j'écris mes bouquins, mais après, c'est les lecteurs, les lectrices et les journalistes qui m'expliquent ce que j'ai dit. Hein. Souvent... Non, je me souviens, en fait. un peu, quand même. Oui, elle était grande lectrice. Oui, je trouve que... Je trouve que les livres, la poésie, les romans, ça peut changer le monde. Ça peut aider de changer le monde. Je ne sais pas si ça change le monde ou non, mais c'est pas mon but comme écrivain d'essayer de changer le monde. C'est simplement je suis conteur et mon but, c'est d'écrire quelque chose, de raconter une histoire vraie et d'essayer de monter un peuple comme ils sont, montrer un peuple.
Est-ce que Molly Standing Bear existe vraiment? Y a-t-il une jeune femme que vous avez rencontrée dans la réserve Cheyenne qui lui ressemble, qui a fait naître ce personnage?
Ah, non, mais c'est peut-être plusieurs personnes un peu. Pas que les jeunes femmes non plus, les femmes plus vieilles que j'ai rencontrées. Maintenant, on a un mouvement. Vous parlez de Standing Rock. On a un mouvement aux États-Unis entre les tribus. Et dans les tribus, les femmes, ils luttent maintenant. Les femmes indiennes, ils luttent d'avoir une voix politique, une voix dans le tribu comme chef. Parce que aujourd'hui encore, c'est les hommes qui sont les chefs. Et j'étais très fier en 2000. C'est pas facile d'être fier de la politique américaine ces jours-là, je dois dire d'abord. Mais en 2018, pour les élections de Congrès, on a élu 3 femmes indiennes pour le Congrès. Et c'est énorme. Et ça, c'est les jeunes femmes qui sont fortes, ils ont une voix. Et je crois que c'est l'âge des femmes dans toutes les sociétés, partout dans le monde. On lutte contre cette idée que c'est les hommes vont toujours être en contrôle de la politique, de décider quand on fait la guerre. Je crois que c'est en train de changer. Ça va faire, à mon avis, des générations vraiment pour égalité. Mais ça commence.
Vous êtes très optimiste de ce point de vue-là.
Oui, je suis. Il faut trouver quelque chose d'optimistique parce que c'est pas facile dans le monde maintenant ce qui se passe avec le climat et avec toute la violence qui se passe dans le monde maintenant. Ça c'est notre question.
Justement, dans vos romans, le paysage est un personnage à part entière. Et vous dites que le paysage vous inspire aussi dans la création de vos romans. Le paysage est de plus en plus dénaturé aux États-Unis. Comment allez-vous continuer à pouvoir trouver votre inspiration?
C'est dur, c'est affreux. Tout a changé, a commencé de changer et maintenant il change de plus en plus rapidement. Moi j'ai vécu toujours dans les petits villages, j'ai passé 35 ans dans un tout petit village dans le Colorado, au nord du Colorado du Nord, un peu à 60 kilomètres de la frontière de Wyoming, et dans un grand espace, une grande plaine avec entouré par les montagnes, et c'était une grande altitude, très haut, et il faisait très très froid en hiver, j'ai vu les photos d'autrefois dans les ranchères, et on avait la neige jusqu'au plafond là, et on avait les tunnels. Maintenant, de moins en moins, on a ces bizarres temps, on peut avoir les températures de 29 degrés. C'était jamais passé comme ça. Moi, j'ai 35 ans, et je suis allé j'ai commencé à vivre là-bas l'année 80. 1980, et le climat a beaucoup changé depuis, et un peu partout maintenant. Et on a tous ces incendies, les inondations en France, en Europe, aux États-Unis, les incendies en Californie, dans le Washington et un peu le state et l'État de Washington, et et tout change. Donc c'est difficile d'être optimiste à ce sujet parce que on a, et Molly elle parle un peu de ça aussi dans le roman, qu'est-ce qu'on a fait, c'est les scientifiques et les climatologues qui nous a prévenu de ce qui va, il y a 30 ans. Ils ont dit que, ils ont expliqué. C'est pas une science très compliquée. Hein. Et on a ignoré pendant toutes ces années, les politiciens surtout, ils ont ignoré ce fait. Et maintenant, on a vraiment le point de, il faut faire quelque chose maintenant. Mais c'est déprimant pour moi un peu.
En parlant de Standing Rock, justement, la problématique est double parce qu'il y a le fait d'encore exproprier les Indiens de leurs terres, mais aussi la question écologique, bien sûr, parce qu'il s'agit des oléoducs qui doivent traverser la réserve. Donc, dans ce contexte-là, quelle chance ont encore les Indiens d'Amérique à bénéficier d'une meilleure vie?
Ça c'est une question compliquée. Je dirais d'abord pour Standing Rock, c'est vrai que c'est un agent, comment dit-on, de pétrole, qui est canadienne en fait, qui fait le pipeline et sur le terrain. C'est le train, on a donné ces tribus. C'est pas, on a donné les tribus, franchement, tout le mauvais terrain. Dans les réserves sont pas dans le terrain productif où on peut pousser beaucoup de choses. En général, ils sont secs, ils n'ont pas. Mais c'est en général. Mais bon, ils veulent faire cette pipeline et c'est un paysage, c'est un endroit sacré. Et donc Obama, il a arrêté le pipeline, il a dit non, ça va pas aller. Et voilà, et Trump a dit oui. Mais on verra, je ne sais pas.
Pour vous, quelles sont les choses de sacré, justement?
Bon, ça c'est un peu personnel, cette question. Je ne sais pas. C'est l'humanité, hein, c'est d'être. Pour moi, c'est le sacré, c'est de traiter tout le monde comme on veut être traité, de respecter les gens, de pas tuer les gens, hein, de arrêter les guerres, toutes les trucs qui sont un peu idéalistes. Hein,
c'est l'humain qui est sacré, en fait.
Les humains sont sacrés?
L'humain en général, l'être humain. La vie.
Oui, c'est difficile à dire qu'ils sont sacrés, mais il faut être, il faut essayer quand même.
C'est quoi, de toute cette palette de femmes qui sont magnifiques dans les trois romans, avez-vous un personnage qui est votre préféré et pourquoi? Une.
Non, moi, j'adore tous mes personnages, en fait. j'ai des préférés aussi. J'ai vraiment essayé, comme j'ai dit au commencement, de entrer dans le pot de ces femmes. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans le format d'un journal de Corneille. Parce que la première personne, ça pour moi, et ça m'a donné l'accès de vie et de devenir cette femme. Et c'est une forme très intime qu'on raconte ce qui se passe aujourd'hui. On raconte ce, et donc, c'était naturel. Et pour le premier, donc, j'ai suivi les mêmes pistes pour la suite et le troisième aussi. J'aime bien ce personnage moderne, contemporaine, Molly Standenberg.
Moi aussi.
Elle est vraiment quelqu'un. Mais ça, je dois dire d'abord, ça c'est la fin de la trilogie. On ne va pas avoir une quatrième. Hein. C'est la fin de la trilogie. Mais un jour, j'ai des autres projets en tête avec moi, à ma maison d'édition en France mais un jour, peut-être, je vais faire une espèce de spin-off avec Molly Standenberg.
Ce serait formidable.
Bon, non, elle est un personnage que j'adore. Mais oui, on a des surprises dans la suite et le troisième aussi.
Mais oui.
Et je suis curieux, entre vous, combien on a lu Mille Femmes Blanches, par exemple? Pas mal, ouais, pas mal. Et La Vengeance des Mères? Ah, oh, ouais. Super, ok, c'est bon, c'est intéressant.
Et c'est un public aussi masculin que féminin, et ça c'est très important.
C'est intéressant parce que ce soir, en regardant, en général, quand j'ai 30, par exemple, si j'ai rencontre avec 30, la public, 30 personnes, j'ai 3-4 hommes. Et souvent, ils sont venus simplement parce que le mari, le femme a dit qu'il faut venir avec moi. Mais je vois qu'on a pas mal des hommes ici. C'est bon. Aux États-Unis, c'est pas du tout. Les hommes ne lisent pas. C'est pareil un peu en France aussi, je dois dire, parce que 85% des romans. Les livres en général sont achetés par les femmes. Ils achètent même les livres pour le mari. Mais les hommes lisent beaucoup moins de fiction et plus de biographies. C'est pas vrai un peu? Plus de biographies, des documentaires un peu et de non-fiction, on dit. Mais c'est impressionnant que combien d'hommes ils sont là, fait comme ça. C'est pas mal, hein?
Oui.
C'est quasiment 50%. 35%. Ouais. C'est bon. Oui, voilà. Mais vous savez, quand je voulais parler un peu de cet article que j'ai écrit pour le magazine America, sur cette femme, grand-mère Margaret. Et c'est le magazine que François Bunel a commencé. Ils ont fait une édition récemment sur les Amérindiens. Moi, j'ai fait une interview avec cette espèce de femme médecin, en fait. C'était grand-mère Margaret, elle s'appelle. Elle m'a dit que 98% des boulots dans la réserve sont faits par les femmes. Elle a eu une vie vraiment, vraiment dure. Elle a sorti de cette vie et elle est devenue psychologue un peu. Elle a fait des courses et maintenant, elle donne des conseils aux femmes sur la réserve. Elle m'a raconté cette histoire. Elle avait une jeune femme qui est venue la voir et elle a dit que, mais comme Margaret, qu'est-ce que je vais faire avec mon mari? Il reste à la maison. Tout. Moi, je vais à mon travail, au boulot. Et lui, il reste à la maison toute la journée. Il regarde la télé avec les enfants. Il les nourrit même pas. Il ne fait pas les vaisselles. Il ne nettoie pas la maison. Moi, je rentre à la maison. Il faut que je fasse le dîner. Il faut que je lave les vaisselles. Il ne fait rien. Qu'est-ce que je vais faire avec ce mec? Et grand-mère Margaret a dit, bon, tu le jettes de la maison. Hein? Et c'est très simple, chérie. Il est inutile. Tu le traites comme un de vos enfants. Donc, tu as un autre enfant dans la maison. Il ne fait rien. Donc, rien n'a vraiment changé sur la réserve. Mais c'est les hommes, comme j'ai dit, qui font toutes les décisions politiques, qui décident qu'est-ce que le tribu va faire. Et ces choses vont... Mais c'était intéressant parce que cette jeune femme, c'est pas ça qu'elle voulait, elle voulait entendre. Je ne sais pas exactement, mais Margaret m'a dit qu'en fait, elle était en colère contre moi. Elle se fâche contre moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait, mais moi, je dis la vérité. Hein. Jette-le, hein. Il est inutile. Bon, c'est une dynamique intéressante.
C'est un portrait de femme qui est très, très touchant, très émouvant. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est l'avant-dernier numéro d'America, me semble-t-il. C'est aujourd'hui. Et on voit, oui, que beaucoup de choses n'ont pas changé. Merci infiniment pour votre présence.
Merci d'être venu.